Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face, vos rendez-vous du samedi jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter, le duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Et puis vous connaissez la règle qui s'applique la veille et le jour de chaque scrutin. Le week-end prochain, nous pourrons parler de tout sauf des élections. Et nous voulions donc débattre de l'Europe et de la construction européenne une dernière fois avant le 26 mai. Notre invitée, elle est philosophe, essayiste, libérale et conservatrice assumée. C'est aussi une spécialiste de la vie politique britannique. Rendez-vous avec Laetitia Strauss-Bonnard dans une demi-heure.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de retrouver les humoristes de France Inter, Gilles, petit erratum, petite précision concernant le RIP, le référendum d'initiative partagée dont on parlait la semaine dernière. Le Conseil constitutionnel, on s'en souvient, a ouvert la porte à un référendum sur l'avenir d'Aéroports de Paris. Et samedi dernier, vous nous disiez que ce référendum ne verrait jamais le jour. Impossible de réunir 4 500 000 signatures nécessaires.
Alors, je l'ai dit avec une certaine conviction, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, que le référendum n'aurait pas lieu. Et qu'il n'aurait pas lieu, pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est qu'il était difficile d'atteindre le seuil des 4 700 000 signataires, mais que par ailleurs, il était très facile, ou il serait très facile pour le Parlement d'enterrer cette initiative. Et c'est sur ce point-là que je voudrais revenir, parce que un certain nombre d'auditeurs ont contesté mon interprétation, et donc j'ai essayé d'aller un peu plus loin.
Simplement ?
Simplement. Et brièvement, autant qu'il est possible. La Constitution dispose que, après que les conditions ont été réunies, celles qu'on vient d'évoquer, le président de la République soumet au référendum le texte si la proposition n'a pas été examinée par les deux assemblées. Et la question qui se pose est de savoir qu'est-ce que ça veut dire examiner. Et donc, je me suis replongé dans les débats constitutionnels de 2008, dans l'application de avec la loi organique de 2013. J'ai consulté à l'Assemblée, au Sénat, des professeurs de droit. Et c'est un sujet qui est extrêmement complexe et extrêmement confus. L'interprétation majoritaire, c'est que c'est très facile pour une assemblée, pour les deux assemblées, c'est obligatoire d'examiner le texte et donc que mon interprétation était juste. Mais il y a une interprétation minoritaire et qui me semble la plus solide, qui dit il est possible pour une assemblée de ne pas examiner le texte et donc d'ouvrir la voie au référendum. Pour ce faire, il suffit qu'elle vote ce qu'on appelle un renvoi en commission, c'est-à-dire après la discussion générale, c'est une motion de procédure qui dit on n'a pas encore assez d'éléments, il faut poursuivre la discussion et ça suspend l'examen du texte. Un professeur de droit qui s'appelle Paul Cassia a déniché une décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 sur la réforme du règlement de l'Assemblée qui traite précisément de ce sujet-là et qui est assez convaincante. Donc, si je conclue,
oui.
Je ne dis plus le référendum est impossible. Il est toujours difficile parce qu'il faut réunir ses signatures. Mais il y a peut-être une voie pour faire en sorte qu'il ne soit pas impossible. En tout cas, il est moins improbable que je ne le disais la semaine dernière. Et donc, je suis heureux de pouvoir faire ce correctif, sachant que je suis sûr que le débat, y compris le débat juridique, va se poursuivre.
Le diable se niche dans les détails. Merci pour la précision, Gilles. On a l'impression que les chances de Bilal à l'Eurovision sont plus grandes que celles de ceux qui sont contre la privatisation d'Aéroports de Paris.
La comparaison est belle. Le problème, c'est que ceux qui sont contre la privatisation d'Aéroports de Paris a priori, ont une chance d'être majoritaires dans le pays. D'où le fait que c'est un problème bien plus grave que la question de savoir qui gagnera l'Eurovision.
J'avoue, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Cette semaine démarrait le procès Balkany et Guillaume Meurice est allé recueillir les réactions des habitants de Levallois-Perret.
Ben, je suis allé au chevet du peuple de Levallois. Il est inquiet, il est blessé. C'est un peuple qui aime son patoche et un patoche qui aime son peuple. Mais posons la question qui fâche, est-ce qu'il magouille ?
Magouiller, ça veut dire quoi, magouiller ?
Ben, ça veut dire toucher de l'argent illégalement.
Ah non, magouiller, c'est tricher. Attention, c'est de prendre un écrit et de le changer. Ça, il ne magouille pas.
Ça, il fait pas.
Ah non.
Mais est-ce que quand même, il touche de l'argent illégalement ?
Illégalement, ça veut dire quoi ? Non, il a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire illégalement ?
Bah avec des montages financiers.
Bah, Il gère son patrimoine.
Voilà, c'est ça, il gère son patrimoine. En France, on n'aime pas la réussite, c'est le problème. Alors que le gars, c'est un modèle de gestion de patrimoine. Est-ce que vous avez des villas dans le monde entier, vous? Eh ben voilà, vous ne savez pas gérer votre patrimoine. Remettez-vous en question. Alors foutez la paix à Patoche, comme le réclame cette dame.
Bon, ouais, il faudrait qu'il lui foute la paix.
Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il a magouillé ou pas du tout?
Bah bien sûr, mais comme tous les entrepreneurs.
Ah oui?
Bah bien sûr, mon père était entrepreneur. Pour avoir des adjudications, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait une enveloppe.
Magouillait aussi?
Bah voilà. Bien sûr.
Mais c'est une tradition locale, en fait.
Pas absolument, mais ça fait partie du jeu.
Bah oui, mais c'est comme ça, enfin. Ne pas respecter les règles du jeu, ça fait partie du jeu.
Cette semaine aussi, c'était bien sûr l'ouverture du 72e Festival de Cannes et Daniel Morin imagine déjà la Palme d'Or de l'année prochaine, de 2020, Palme d'Or qui sera remise à un biopic.
Et la Palme d'Or est attribuée à le parrain de Levallois. Bande annonce.
Officiellement, il gagnait 7000 euros par mois. Mais d'après l'enquête du Trésor public, 7000 euros, c'est ce qu'il dépensait à chaque repas. Venez découvrir au cinéma les aventures de Patrick, le parrain de Levallois. Un sourire de vendeur de bagnole. Des costards de vendeurs de canapés. Une voix de vendeur d'encyclopédie. Un rire de vendeur de cercueil. Et un portefeuille de vendeur d'armes. C'est lui, c'est Patrick. Et avec Patrick, c'est le règne du cash. Patrick, à l'agence de voyage. J'ai besoin de 2 billets en première pour New York. Voilà, ça fait 14 180 euros. Vous payez comment, monsieur? En cash. Waouh, il a vraiment du cash. Patrick, à la concession auto. Je vous prends la bagnole, là. Excellent choix, monsieur. C'est la Porsche 911 Turbo, 3 litres 8, injection, plus de 600 chevaux. C'est combien? 263 735 euros. Vous payez comment? En cash. Ce parcours exceptionnel, venez le découvrir au cinéma dans Le Parrain de Levallois.
Dans l'actualité aussi, cette polémique à propos du glyphosate suite aux déclarations d'un sénateur UDI, Pierre Medevielle, après la publication d'un nouveau rapport sur fond de fichage de scientifiques, de journalistes et d'hommes politiques par Monsanto.
Medevielle donc a dit que non, le glyphosate n'était pas cancérigène. Il est même recommandé d'en boire matin, midi et le soir en tisane, aurait-il ajouté. Puis il affirmait que le glyphosatounet, comme il l'appelle, était moins cancérigène que la charcuterie, qui elle n'est pas interdite, à part dans les bar mitzvahs où si vous venez avec une andouille, il peut y avoir un froid. Et là je dis attention, on est là à embêter Monsanto, Bayer, ces firmes composées de gens très rigoureux, qui font des petites fiches sur tout le monde, des bosseurs quoi. Et personne ne demande de compte. Ah, Justin Bridoux? Justin Bridoux, sa moustache, l'Artus Bertrand de l'apéritif et sa saucisse sèche, potentiellement cancérigène? Justin Bridoux, son béret, son saucisson, bien meilleur rempart contre l'islamisme que Laurent Wauquiez, serait un danger? Donc j'en appelle à Jean-Yves Le Drian. Monsieur, je vous demande de placer en zone rouge le Danemark. Avec tout le salami qu'on y produit, le lieu est plus nocif que Tchernobyl en 86.
Et puis la campagne pour les européennes, la liste PS Place Publique qui passerait sous la barre des 5% dans certains sondages. Le risque est là de n'avoir aucun député au Parlement européen. La productrice de la campagne de Raphaël Glucksmann a donc fait appel au poids lourd du PS.
Ouais, salut, ouais. Raphaël a fait appel à moi pour moderniser et relancer sa campagne. Moi, quand on me dit modernité, ambiance, jeunesse, je pense immédiatement Bernard Cazeneuve. On sait jamais le dernier pour se marrer, hein. Entre nous, on l'appelle Bozo le clown. C'est vrai que Raphaël Glucksmann, il a un petit déficit de charisme. C'est pour ça que je fais pas venir Jean-Marc Ayrault au meeting, de peur qu'il fasse de l'ombre. J'ai même pensé à appeler Michel Rocard, mais bon, il est mort. Ça m'est venu quand Raph m'a dit, on a qu'à faire monter sur scène un hologramme de Jospin. Moi, j'ai fait mes preuves là-dedans, hein. La tournée achetant des têtes de bois, vous connaissez? Faire du vieux avec des vieux. Ah bah c'est moi. C'est Bibi. Bah là j'ai fait pareil. Pour relancer la campagne de Glucksmann, j'ai ressorti les éléphants. Ça va mettre le feu. Même Christiane Taubira vient chauffer l'ambiance. Par contre j'ai prévenu Rafou, hein. Taubira elle fait des phrases avec des mots, les gens percutent pas, hein. Donc j'ai dit faites gaffe, ne vous lancez pas dans un débat philosophique, sinon vous allez perdre vos électeurs. Puis je me suis rappelé qu'ils les ont déjà perdus. J'ai bon espoir de faire venir Hollande aussi. Facile, suffit d'attendre que Macron s'exprime. Puis vous laissez traîner un journaliste et un paquet de croissants, il mord à l'hameçon, voilà. Je vois bien que les autres essayent de me piquer mon savoir-faire. Raffarin qui soutient l'oiseau, un ancien conseiller de Chirac embauché comme conseiller à l'Élysée. Si ça continue, Apple va relancer le Minitel. À Lille, j'envoie Martine Aubry. Je lui ai promis qu'elle pourrait dire du mal de Macron et de Hollande, de Hamon et de Jadot et de Glucksmann. Ah non, pas Glucksmann, pardon. Voilà.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre dans le grand face-à-face, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Oui. Une nation n'est libre et forte que par la fraternité et la solidarité qui l'unit. Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne, en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée. Tel est le sens profond de votre combat.
C'était mardi matin, cérémonie solennelle aux Invalides en hommage à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ces deux soldats qui ont été tués au cours de l'opération qui a permis de libérer quatre otages retenus au Burkina Faso. Moment d'émotion, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, un discours assez fort où il parlait de ces deux commandos tombés au cours de cette opération de sauvetage comme des héros et la nation doit se montrer digne de ces héros. Est-ce que c'était une manière pour vous, pour l'un et pour l'autre, de clore les polémiques qui ont pu naître juste après la libération des otages, et notamment des deux otages français qui étaient retenus au Burkina Faso, Natacha ?
Je pense qu'en fait, il faut absolument découpler les deux questions. La question du sens de la mort de ces soldats, et la question qu'on peut se poser ensuite, qui est celle de la responsabilité individuelle des touristes, etc. C'est-à-dire que quand certains furieux de cette histoire disent « mais ce sont deux soldats qui sont morts pour rien, pour aller sauver deux touristes », non. Ces deux soldats sont morts pour l'idée qu'ils se font de la France et que nous nous faisons collectivement de la France, c'est-à-dire que la France, partout, secourt ses citoyens et a un rôle de projection de ses armées et de défense de certains intérêts, même dans des pays lointains. En revanche, la chose importante aussi, c'est que une fois qu'on a dit cela, que cette mort a un sens et que c'est la fonction essentielle de l'armée que de perpétuer cette idée de la France, il ne faudrait pas que le politique soit tenté d'instrumentaliser ce qui aujourd'hui, disons, est soutenu par une partie des citoyens dans l'image de l'armée, pour compenser son incapacité, l'incapacité du politique à intégrer, à penser la nation, la communauté nationale. On voit bien cette tentation de dire, eh bien, écoutez, puisque l'armée est la seule institution qui arrive encore à créer de la cohésion, allons-y, faisons d'immenses cérémonies et faisons porter ce devoir de cohésion à l'armée. Je pense que les soldats ne demandent pas ça.
On va en parler justement de la France et de la nation qui semble redécouvrir son armée depuis quelques années. Mais Gilles, sur le sacrifice et la mort de ces deux soldats, quand on a dit que leur sacrifice était vain, il y a eu une polémique politique qui est née immédiatement après leur libération la semaine dernière. Ils seraient morts, ces deux commandos, pour sauver les touristes imprudents, autrement dit pour de mauvaises raisons. Est-ce que vous avez compris cette manière de présenter les choses ?
Le président de la République a répondu dans son discours. C'était pas l'objet principal, mais il ne pouvait pas ne pas répondre dans la mesure où c'est, d'une certaine manière, le gouvernement lui-même qui avait lancé cette polémique. Il y a répondu en disant...
C'est le président de la République lui-même qui a donné le feu vert pour l'opération.
Évidemment. Et il y a répondu en disant, je le cite, que la France n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances. Et fût-ce à l'autre bout de la planète. Je crois que c'était une cérémonie, cette cérémonie solennelle, comme vous l'avez dit, était empreinte de dignité, de gravité, d'unité, comme le sont souvent les cérémonies aux Invalides. Un peu comme un moment de communion républicaine et nationale, presque comme une réponse à une société qui est de plus en plus fragmentée et de plus en plus divisée. Et ce qui est très frappant quand on se place dans une perspective plus longue, c'est de voir à quel point les cérémonies aux Invalides, qui étaient des moments exceptionnels, sont devenues de plus en plus habituelles. Alors ça tient pour partie aux circonstances, mais pas seulement, parce qu'il y a eu un certain nombre d'hommages aux militaires, comme celui que l'on a vu mardi dernier, mais pas seulement. Les Invalides ont été aussi de plus en plus utilisés pour des hommages à des responsables politiques. Il y en a eu un par an depuis 6 ans, comme un hommage à des personnalités du monde artistique,
Jean Dormesson par exemple,
mais et de très nombreux autres. Et donc Il y a une forme d'utilisation des Invalides comme moment de communion nationale et presque comme substitut à une unité qui est en train de se, non pas de se disloquer, mais en tout cas de se fissurer.
C'est exactement ce que je disais à l'instant. En effet, cette multiplication est un peu inquiétante parce qu'elle nous révèle le besoin des politiques de se raccrocher à cette unité qui apparaît là et qui ne dépend pas d'eux. C'est-à-dire que il ne faut jamais abuser de ce genre de cérémonie dans la mesure où elles ne suffiront pas à réparer la cohésion d'un pays.
Et vous pensez qu'on n'en est pas loin ?
On peut se réjouir que dans des moments comme celui-là, il y ait une forme d'unité nationale et on voit à quel point, en effet, beaucoup de Français sont émus face à l'héroïsme de certains êtres humains. C'est quelque chose qui nous porte. Mais pour autant, ça ne suffira pas à compenser l'absence de politique d'intégration, l'échec de l'école, la dislocation des liens sociaux qui font que nous sommes dans une incapacité aujourd'hui à créer une société unie autour de valeurs.
Malgré tout, on peut s'interroger sur le fait qu'on voit aujourd'hui avoir lieu ces cérémonies. Gilles, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait déjà des soldats français qui étaient tués en cours d'opération à l'étranger. Et pourtant, il n'y avait pas de cérémonie de ce type, ni aux Invalides, ni ailleurs.
Il y en avait beaucoup moins. Je pense qu'on est, c'est vrai, de l'ensemble des sociétés occidentales dans une évolution de notre rapport à la mort qui devient quelque chose de plus en plus inacceptable. Et c'est à la fois, je crois, un progrès parce que ça montre dans nos sociétés, par rapport à ce que sont nos valeurs, la place éminente de la vie de chacun. Et c'est en même temps une faiblesse potentielle par rapport à ce qu'est le reste du monde qui n'accorde pas la même place à la vie humaine. Donc c'est vrai, il y avait des moments auparavant. Alors il y a eu quand même une vague d'attentats qui a été aussi l'occasion de réactiver ces cérémonies aux Invalides et de manière totalement légitime. Mais je crois que
aux États-Unis, par exemple, ils sont familiers de ce type de cérémonie depuis des années. En tout cas, les vétérans, la place de l'armée est totalement différente au sein de la société américaine.
Oui, c'est vrai. C'est pas seulement la place de l'armée, puisque les cérémonies aux Invalides, elles ont été très au-delà de l'armée depuis 6 ans. Il y a plus d'une dizaine de cérémonies aux Invalides qui ont eu lieu.
Natacha.
C'est pas seulement la place de la mort qui survient, c'est la place de la mort qui est assumée. Le risque assumé, c'est cela qui est essentiel. Et d'ailleurs, il y avait une contradiction légère dans le discours d'Emmanuel Macron, qui était un très bon discours, hein, parce qu'il sait faire ce genre de choses. Mais quand il dit, c'est la destinée d'un soldat de trouver la mort. Est-ce réellement sa destinée ? On peut citer la phrase du général Patton, le but, ce n'est pas d'aller mourir pour sa patrie, c'est de faire que le salaud d'en face meure pour la sienne. C'est une façon brutale et à l'américaine d'exprimer la chose, mais ça signifie que le but d'un soldat n'est pas de mourir. Donc, expliquer cela, c'est donner une coloration un peu étonnante à cela. Ce qu'il faut, c'est assumer le risque de la mort, et c'est quelque chose, en effet, auquel nous ne sommes plus préparés dans nos sociétés occidentales, et savoir aussi que le risque, quel qu'il soit, doit être mesuré par chacun. Et là, c'est le problème de savoir aussi si, véritablement, nous ne devons pas penser différemment notre société, du tourisme, de l'ouverture, etc. Et ça concerne la responsabilité des touristes. Vous voyez, il y a la question du risque, elle se pense différemment.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Alors tout paraît dérisoire après ce sujet-là, mais on va malgré tout en parler parce que la question est au cœur d'une polémique politique à Paris et bien au-delà de la capitale. Les trottinettes électriques, il y en a 15 000 en circulation, elles seront sans doute 40 000 à la fin de l'année. Elles sont accusées de semer le chaos à Paris, dangereuses pour les utilisateurs, pour les piétons. Les opérateurs se font la guerre, les juiceurs, les auto-entrepreneurs qui sont chargés de recharger les trottinettes sont soumis à la précarité et à des rythmes pénibles. Certains voudraient les interdire. La réflexion de leur régulation est en tout cas posée par la mairie de Paris. Écoutez Jean-Louis Missica, adjoint à Anne Hidalgo. Il est en charge de l'urbanisme.
Si jamais nous n'arrivons pas à la fois à éduquer les utilisateurs et à convaincre
les opérateurs que ce mode de déplacement, ils ont une responsabilité dans l'espace public, alors oui, nous interdirons, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution.
Jean-Louis Missika, c'était mercredi dans l'émission C'est à vous sur France 5. Est-ce que vous utilisez l'un et l'autre la trottinette, Gilles ?
Non.
Natacha ?
Non, non plus.
Non plus. Bon.
Pour deux raisons. D'abord, une raison purement rationnelle qui est la raison...
La peur de la mort ?
Le risque, oui. Oui, c'est risqué. Oui, quand vous êtes dans la circulation, confronté à des véhicules qui ne vont pas à la même vitesse, qui ne vous voient pas forcément, bien sûr que c'est extrêmement dangereux. Surtout avec la chaussée parisienne, les roues des trottinettes sont minuscules. Ça fait évidemment, ça se coince dans les nids de poules. C'est épouvantable. Et après, il y a une question, j'allais dire, qui est alors là purement subjective et qui est la conception que l'on peut avoir de la dignité d'un être humain sur un véhicule à roulette.
Voilà. C'est quasiment esthétique.
C'est une question d'esthétique, exactement.
Et morale, Gilles. Mais est-ce qu'il faut pourtant, pour autant, les interdire, les trottinettes électriques, comme certains le réclament ?
Alors, je ne crois pas. Ce sujet est fascinant et passionnant.
Ah,
ce n'est pas seulement un sujet parisien, parce qu'il y a des trottinettes électriques dans d'autres grandes villes. Disons que c'est un sujet urbain, mais qui, à Paris, a pris un tour spectaculaire pour les raisons que vous avez évoqué, il y en avait quelques centaines il n'y a pas si longtemps, on est à 15 000, 40 000 à la fin de l'année, et donc un développement de beaucoup de questions. Ce que je trouve passionnant dans ce sujet, c'est que c'est la politique par l'objet. C'est la politique par le concret, c'est-à-dire qu'on rentre dans des questions politiques, non pas par l'idée, par l'abstraction, par le concept, mais par l'objet, que c'est un sujet qui est éminemment politique.
Par l'objet ridicule, on croit Natacha, d'autant
plus. Et que cet objet symbolise des mutations majeures de notre société. Oui. Une mutation philosophique, c'est on ne veut plus avoir la propriété, mais on veut avoir l'usage. On le voit avec les trottinettes, mais on le voit avec bien d'autres biens. Une mutation technologique, c'est la rencontre à la fois du satellite et du numérique avec la géolocalisation. Et puis, une nouvelle préoccupation qui est la question de l'environnement. Donc je trouve ce sujet absolument passionnant. Certains disent il faut interdire. Je trouve que si on interdit, en tout cas a priori, comme ça c'est une forme de démission. D'autres disent, les plus libéraux, il ne faut rien faire. C'était la position notamment de Gaspard Koenig. Est-ce qu'il peut y avoir une position social-démocrate à la trottinette ?
Bon. Ça, c'est une belle question.
Moi,
Anne Hidalgo a proposé aux opérateurs une charte de bonne conduite. Est-ce que ça s'approche de la social-démocratie ou est-ce qu'on est déjà dans le totalitarisme ?
Non, je crois que la trottinette est quelque chose de positif au sens où c'est un outil de mobilité douce, comme on dit, qui est à la fois moins bruyant, moins encombrant, moins polluant, dès lors que il y a suffisamment de concurrence pour que les prix soit abordable, et souvent les trottinettes sont chères, et qu'il y ait surtout suffisamment de régulation, y compris de responsabilité des usagers eux-mêmes, pour que ce soit acceptable dans l'espace public.
Natacha ?
Oui, parce que dans la déclinaison, en effet, tout à fait juste que vous avez faite des différentes problématiques à l'œuvre autour de cet objet, et en effet c'est passionnant, il y a aussi la question, une fois de plus, de la responsabilité individuelle et du civisme, et de la façon dont nous pouvons nous comporter en société.
Mais s'il est interdit de rouler ou de stationner sur les trottoirs, ça vous va ?
C'est le cas.
C'est le cas.
Mais je termine rouler, juste sur le... Rouler, c'est passible d'une amende de 135 euros.
Oui. Juste sur la question de la responsabilité, cette responsabilité rencontre tout de même celle d'acteurs qui sont, une fois de plus, comme dans tous les domaines où les nouvelles technologies interviennent, qui sont des acteurs dont le but est avant tout d'exploiter non seulement le numérique pour, disons, fournir un service sans réellement produire quelque chose derrière, et d'exploiter aussi ceux qui vont être chargés de recharger ces trottinettes. C'est-à-dire qu'il y a derrière une économie qui est une économie de l'exploitation. Et c'est là-dessus qu'il faudrait se focaliser, c'est-à-dire le fait que nous, individus, sommes incités à aller vers ce genre d'objet parce que, de fait, ça facilite la vie, c'est intéressant, c'est ludique aussi, si on veut. Mais surtout, sans prendre en compte le modèle économique qui est derrière. Donc la responsabilité individuelle, elle est aussi face à cela et elle nécessite une régulation des politiques.
Encore un mot, Gilles, avant de passer au débat.
Oui, il y a la question économique et le modèle économique n'est pas si simple. On dit les exploitants veulent justement exploiter un modèle économique. C'est pas si simple que ça. La rentabilité du système n'est pas si simple. Et quand on a, comme aujourd'hui à Paris, 11 opérateurs différents, on peut parier sans prendre trop de risques qu'une bonne partie d'entre eux ne seront plus là dans quelques temps. Et puis, il y a la question des usagers. Et il faut quand même, malheureusement, reconnaître que, globalement, collectivement, nous nous comportons très mal. Nous nous comportons mal pendant l'usage de ces trottinettes. Chacun a vu des personnes où ils sont à deux sur une trottinette, sans casque, avec des écouteurs, en brûlant les feux et en roulant trop vite.
Oui.
Et nous nous comportons mal, et c'est un cas spécifiquement français, après, c'est-à-dire dans la manière non seulement dont nous les garons, mais aussi avec le nombre de dégradations et de vols. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous interroge. On est là tous à dire qu'il faut davantage de responsabilité et davantage de respect. C'est vrai pour les autres, mais ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et je crois qu'on en est aujourd'hui très loin.
Avant d'accueillir Laetitia Strauss-Bonnard, un mot quand même à propos des 80 km/h. Vous avez obtenu gain de cause, Natacha. Vous militiez contre cette décision.
C'est pas pour les trottinettes. Hein.
Non, ça c'est vrai.
C'est pas pour les trottinettes.
Non, mais je ne militais pas. Je me permettais de faire remarquer que c'était méconnaître totalement les conditions de vie de la grande majorité de nos concitoyens, des endroits où évidemment la vitesse, la régulation de la vitesse touche à la question de la liberté individuelle, de la prévention réelle face à une mesure coercitive facile. C'est la question de la possibilité pour les individus de tout simplement vivre à peu près correctement au quotidien. Donc il y a des tas de sujets là aussi derrière. Tout simplement l'idée qu'il fallait se taire parce que c'était pour éviter des morts me semblait un argument qui ne tenait pas compte de l'ensemble des données.
Et on aura l'occasion d'y revenir à suivre dans le grand face-à-face l'Europe en débat avec la philosophe Laetitia Strauss-Bonnard.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Une semaine avant les élections européennes, l'Europe en débat. Constat qu'on peut faire en cette fin de campagne. Pas une seule des têtes de liste françaises aux européennes ne se réclame du libéralisme. Toutes accusent l'UE d'être d'abord un grand marché ouvert à la concurrence. L'Europe est-elle malade du libéralisme? On va en discuter avec notre invitée. Elle est philosophe, essayiste, libérale et conservatrice. Elle connaît parfaitement la vie politique britannique. Bonjour Laetitia Strauss-Bonnard.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous vivez à Londres, vous êtes de passage à Paris. Nous voulions ouvrir le débat avec vous et on va parler de cette drôle de campagne. Est-ce que c'est aussi une drôle de campagne d'ailleurs de l'autre côté de la Manche avec cette situation qui semble un peu absurde? Il y a le Brexit, les Britanniques ont voté et pourtant ils vont également voter aux élections pour élire des députés au Parlement européen.
Oui, alors c'est très intéressant. En tout cas, c'est plus palpitant outre-Manche qu'ici, il faut le dire. Ce qui est assez fascinant, c'est le niveau de détestation de l'Europe qui n'a fait que croître en fait à cause de la difficulté du gouvernement britannique à négocier un accord de sortie. Et c'est vrai que Nigel Farage a réussi un coup politique extraordinaire puisqu'il a fondé un nouveau parti qui est aujourd'hui en tête des sondages. Cependant, je suis assez sceptique sur ce que ce parti peut faire concrètement au sein de l'Union européenne. S'il est élu, c'est un parti protestataire. Je suis aussi très sceptique sur le succès de ce parti à des élections britanniques, parce qu'on en parle beaucoup, mais ce sont quand même des enjeux différents. Si demain, il y avait une élection en Grande-Bretagne pour le Parlement britannique,
oui,
je ne crois pas que ce parti aurait des voix, mais je ne crois pas que ce serait durable.
On va en parler justement, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça d'un mot absurde? On va faire un tour de table. Absurde que les Britanniques votent aux élections européennes?
Si, alors, c'est le droit. C'est comme ça que sont écrits les textes européens. Si vous êtes dans l'Union européenne, eh bien, vous participez aux élections.
En effet,
je trouve ça un petit peu absurde. Et je pense qu'en fait, ça ne fait qu'envenimer le débat politique qui est déjà extrêmement chargé en Grande-Bretagne. On ne parle que du Brexit depuis 3 ans.
C'est vrai. Natacha, vous trouvez ça absurde que les Britanniques votent ?
Là, je partage le point de vue de Laetitia Strauss-Bonnard. Il y a la question juridique, en effet, et l'Union européenne, ce sont des institutions qui tiennent par des règles de droit. On applique ces règles de droit. Bon, après, en effet, il y a le point de vue. Ben, c'est bien le problème de l'Union européenne, mais il y a le point de vue politique qui, en revanche, oui, nous fait dire que c'est peut-être pas la meilleure manière d'apaiser le débat. Et, mais pouvait-on faire autrement ?
Mais justement, parce qu'on n'est pas juriste, on va terminer le tour de table à propos de cette absurdité. Gilles ?
Oui, c'est absurde et c'est inévitable. La vie est parfois comme ça.
Pourquoi inévitable ?
Ben, c'est inévitable parce que si les Britanniques ne votaient pas alors que l'Union européenne est dans l'Union européenne, c'est l'ensemble des institutions dont les décisions seraient juridiquement
invalidées. Mais en même temps, le Royaume-Uni n'est plus vraiment dans l'Union européenne.
Tant que le Royaume-Uni n'est pas dehors, le Brexit n'a pas eu lieu. Tant que le Brexit et l'accord n'a pas été signé, les Britanniques se sont dedans.
Natacha puis Laetitia Strugbonard.
Non, après ça, moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez, et c'est peut-être lié. Tout à l'heure, en introduction, vous disiez, il n'y a aucune liste qui se réclame du libéralisme.
On va y venir, justement.
Mais ça me semble intéressant, c'est-à-dire que le libéralisme politique tel que le défend l'Union européenne, enfin, tel qu'il est, j'allais dire, une part du génie de la civilisation européenne, s'appuie aussi sur l'état de droit et sur des règles de droit. Donc, de fait, en l'occurrence, il serait profondément dangereux de ne pas appliquer jusqu'au bout ces règles de droit. En revanche, et là ce sera la suite de notre débat, ce libéralisme ne doit pas être confondu avec le néolibéralisme, c'est-à-dire la dérégulation.
N'allez pas plus vite que la musique, parce que justement, Laetitia Strugbonard, vous avez travaillé et écrit sur le libéralisme, celui de Thatcher, celui de Theresa May. On ne va pas confondre le libéralisme, le néolibéralisme, l'ultralibéralisme et l'ordolibéralisme. C'est aussi un mot à la mode. Mais partons quand même de cette drôle de campagne, Laetitia Strugbonard. Est-ce que de l'autre côté de la Manche, l'expression de vote utile a un sens ? Pour les élections européennes ?
Non, pas du tout. L'expression n'existe pas. Non, pas du tout. C'est très français comme expression. Non, aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que simplement, vous avez des gens qui sont très, très mécontents de la façon dont la négociation se passe entre le gouvernement britannique et l'Europe, et qui ont décidé de voter pour le parti du Brexit. C'est tout. Enfin,
c'est tout.
Et il y a aussi le vote. Alors, en revanche, le vote sanction, ça existe parce que les scores aujourd'hui du parti conservateur et du parti travailliste en Grande-Bretagne sont lamentables. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant pour l'avenir de la négociation avec l'Union européenne, parce que j'aimerais bien qu'elle réussisse, cette négociation. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais je me demande aussi si une sortie sans accord n'aurait pas été préférable.
On va en parler, mais l'expression de vote utile, Gilles, elle s'impose en France dans la campagne, dans cette fin de campagne.
Alors, elle revient...
C'est l'argument dominant.
Elle revient en fin de campagne. Elle est utilisée à la fois par le haut, par les responsables politiques, notamment de La République En Marche, mais on a vu aussi Laurent Wauquiez le faire lundi dans le Figaro. Et d'une certaine manière, c'est un sujet d'interrogation par le bas pour les citoyens qui, dans une campagne avec des listes pléthoriques, des enjeux qui paraissent vaporeux et une campagne qui est assez atone, se demandent pour qui ils vont voter. C'est pas étonnant que ce soit pas utilisé au Royaume-Uni parce que, dans son acception traditionnelle, le vote utile n'a de sens que dans une élection présidentielle à deux tours. Le vote utile, c'est privilégier un choix de raison à un choix de cœur pour essayer de peser sur la configuration d'un second tour. C'est lié au traumatisme de l'élection présidentielle de 2002 et au 21 avril.
Pas seulement, Laurent Wauquiez dit « Votez les Républicains, votez pour la droite parce que nous serons le groupe le plus important au Parlement européen et que nous pourrons donc peser sur les politiques communautaires ».
Alors oui, mais ça veut dire que dans cette acception traditionnelle, le vote utile n'a pas beaucoup de sens dans une élection proportionnelle au niveau européen. Et donc il a fallu inventer une conception renouvelée du vote utile, dans lequel l'enjeu, c'est pas de peser sur la configuration du second tour, mais sur l'interprétation des résultats. Et donc, on arrive à quelque chose de très sophistiqué. On crée un nouvel enjeu qui est arriver en tête au premier tour, au seul tour. Et c'est ça qu'essaye de mobiliser la République En Marche. Après, la question, c'est ce que vous posez. C'est une fois qu'on définit d'une manière ou d'une autre le vote utile, quelles conséquences on en tire? Et c'est là où on voit l'absurdité. La République En Marche en dit... conclut, il faut voter pour La République En Marche parce que c'est le moyen d'éviter que le Rassemblement National soit en tête. Un certain nombre d'autres vont dire, au contraire, il faut voter pour le Rassemblement National, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu le ralliement de cet élu de la France Insoumise. Ça, c'est si on se place au niveau national. Si on se place au niveau européen, le vote utile, Laurent Wauquiez dit, il faut voter pour François-Xavier Bellamy parce que c'est la France qui pèsera dans le groupe le plus important. Et d'autres pourront dire, il faut voter pour Raphaël Glucksmann puisque les socialistes ont une chance d'arriver en tête au niveau européen. Conclusion de tout ça, moins de tactique, plus de conviction, ça serait beaucoup mieux.
Natacha.
Oui, alors là, la dernière phrase, j'y souscris totalement, c'est-à-dire que la question du vote utile, elle apparaît en général quand on est incapable d'offrir une vision à des électeurs et de leur dessiner un avenir auquel ils auront envie d'adhérer. C'est bien le problème de ces élections, c'est-à-dire que pour l'instant, la question que se pose, hélas, une majorité de citoyens, c'est est-ce que voter aux élections européennes est un vote utile. Et a priori, l'abstention risque d'être le premier parti. Ce qui est tout de même désespérant parce que ça nous raconte, petit à petit, la désaffection majeure que rencontre l'Union européenne auprès des citoyens. Et donc, ça devrait nous inciter à poser réellement les débats. Or, moi, ce qui me frappe, c'est surtout que, certes, la campagne a enfin commencé. C'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a des discussions. Mais y a-t-il réellement un débat de fond aujourd'hui sur les questions européennes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez entendu quelque part, par exemple, discuter réellement de l'euro, de la surévaluation de l'euro, de la façon dont on peut y remédier parce que les Français qui ont souhaité l'euro...
Alors ça ne relève
pas
des compétences du Parlement européen.
Non, sauf que c'est profondément lié et que si on parlait réellement de cela, peut-être que les citoyens auraient envie de se mobiliser réellement pour des élections européennes.
Avant de vous interroger sur le libéralisme, Laetitia Sroche-Bonnard, un mot, est-ce que l'abstention en Grande-Bretagne est aussi forte a priori qu'elle pourrait l'être en France?
L'abstention est forte, comme dans toutes les démocraties occidentales. En revanche, ça inquiète un petit peu moins la population. Je pense que c'est parce que la politique n'est pas du tout conçue de la même façon. En fait, en Grande-Bretagne, le gouvernement, c'est une entité à laquelle vous déléguez votre pouvoir. En France, on a quand même une vision de la politique assez différente. On s'intéresse à la politique, on aime l'État ou on le déteste. Enfin voilà, c'est une relation un peu compliquée, mais on s'investit beaucoup. On n'a pas seulement l'impression de déléguer du pouvoir. Donc les Britanniques, eux, ils ont une vision un peu utilitaire, en fait. Ils votent, bon, certains ne votent pas. C'est leur choix, c'est leur droit. En France, d'ailleurs, c'est assez plaisant parce que ça veut dire que nous, on a un intérêt pour la chose publique qui est différent.
Mais qui se manifeste pas forcément par le fait d'aller voter. La question du libéralisme, elle est intéressante parce que je le disais en démarrant, il n'y a pas une tête de liste en France qui se dise libérale. C'est assez frappant, même si on présente le débat aujourd'hui comme celui qui opposerait les libéraux face aux nationalistes, peu importe les mots qu'on emploie, personne ne se revendique du libéralisme. On pense à la phrase de Peter Sutherland, qui était l'ancien commissaire européen, ancien président de la banque Goldman Sachs, ancien secrétaire général de l'OMC, et il disait la chose suivante: Londres a façonné une Union européenne libre-échangiste à son image. Est-ce qu'il a raison, finalement, post-mortem? Est-ce qu'il a raison? L'Union européenne est finalement le plus beau succès du Royaume-Uni, alors même qu'il la quitte. L'Union européenne est un marché, et d'abord un marché, un espace libéral.
Alors, je vais d'abord répondre à votre première question, parce que vous dites, aucun parti ne se réclame du libéralisme aujourd'hui, en tout cas dans ces élections, mais plus généralement dans toutes les élections. Moi, je trouve ça assez triste, assez inquiétant. Je remarque aussi autre chose, qui est que le mot libéral est devenu une insulte.
En France ?
En France. C'est-à-dire que maintenant, il suffit de dire à quelqu'un « Vous êtes libéral » pour que ce soit terminé. Ça veut dire qu'il est du mauvais côté. Néolibéral, c'est encore pire. Et je trouve ça dommage. C'est même pire que le mot conservateur, que je connais aussi un peu, mais qui revient un petit peu quand même en ce moment. Ça devient plus sympathique.
Que vous aimeriez réhabiliter.
Aussi, enfin les deux. Voilà, moi j'ai choisi les deux pires concepts de la philosophie politique. Et donc, je trouve ça révélateur de quelque chose. Et je le regrette. Pourquoi ? Parce que je pense que l'Occident moderne est fondé sur l'idée libérale. Et l'idée libérale politique et économique, qui pour moi sont indissociables. Donc on a oublié d'où on vient. Nous sommes très ingrats parce que nous avons aussi oublié les bienfaits du libéralisme politique et économique qui sont énormes. On n'en parle jamais parce que ça ne fait pas les gros titres. Et je pense que nous sommes aussi amnésiques parce qu'il y a quelques décennies, on se battait contre le communisme. On était tous ensemble. D'ailleurs, la droite était beaucoup plus soudée. Les conservateurs et les libéraux étaient ensemble. Maintenant, il n'y a plus d'ennemis, croit-on. Et donc, c'est chacun pour soi, et tout le monde est redevenu anti-libéral. Donc, je le regrette, et peut-être que j'aurai l'occasion de le développer, mais je défends le libéralisme pour deux raisons. Je le défends pour une raison théorique et pour une raison empirique.
Et la raison empirique, vous allez nous l'expliquer, Natacha.
Oui, alors juste une chose. Vous êtes dans une contradiction majeure, puisque vous refusez la différence entre libéralisme et néolibéralisme. Or, en faisant cela et en nous renvoyant au communisme, vous êtes en train de dire, d'envoyer le message, si vous êtes pour le libéralisme économique, c'est-à-dire, en effet, je le disais tout à l'heure, une part du génie de la civilisation européenne. La modernité européenne, elle se fait sur ce libéralisme économique. Donc si vous êtes pour cela, si vous êtes pour la libre entreprise, alors vous devez adhérer aux politiques telles qu'elles sont menées aujourd'hui, c'est-à-dire à la dérégulation, c'est-à-dire au fait que l'Union européenne est l'espace le plus ouvert économiquement de tous les espaces économiques mondiaux. Et il n'y a pas de milieu entre cette dérégulation absolue et la collectivisation des moyens de production. C'est ça que je conteste. La meilleure manière d'engager un débat sur le libéralisme, c'est de dire justement que, a priori, j'imagine que nous sommes tous ici autour de cette table pour une économie de marché, c'est-à-dire une liberté d'entreprendre, une liberté de le droit de propriété, etc. En revanche, nous sommes, il me semble, nous avons des visions différentes de la régulation nécessaire à imposer à cette économie de marché. Et là, on peut débattre. Mais néolibéralisme, c'est pas le libéralisme.
Ce qui est étonnant, c'est que vous me prêtez des propos que je n'ai pas du tout prononcés. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé de néolibéralisme du tout.
Vous l'avez associé dans votre propos.
C'était dans
vous
mon
avez
introduction.
Dit que c'était la même chose que tout le monde était
vous,
contre
vous
aussi.
Vous parlez de dérégulation, je n'en ai pas parlé. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que je n'ai jamais dit il faut accepter sans aucune réflexion la dérégulation, et donc vous sous-entendez certainement celle de Bruxelles. J'en revenais au principe.
Non, et puis celle
ensuite sur la question
Reagan
du néolibéralisme, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est assez mal connu et il y a plein de façons de le définir. Alors, il y a une façon de la définir qui consiste à dire que les néolibéraux étaient en rupture avec les libéraux. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus radicaux. En fait, le néolibéralisme, c'est une école qui est née en plusieurs temps, mais disons que dans les années 70, elle est vraiment arrivée sur le devant de la scène parce que, en gros, le système keynésien ne fonctionnait plus. Et donc là, on a cherché d'autres solutions. Et on a vu en Grande-Bretagne, notamment Margaret Thatcher, qui est allée chercher d'autres idées, donc dérégulation, privatisation, ouverture des échanges de capitaux. Ce qui a sauvé le pays, qui était dans une situation absolument catastrophique. Donc, on peut dire qu'il y a une rupture. Mais on peut aussi dire qu'il y a une continuité. Il y a beaucoup de penseurs qui estiment qu'il y a une continuité dans la mesure où un grand nombre de néolibéraux voulaient simplement revenir aux sources du libéralisme. Donc, je ne crois pas que la distinction soit tellement rigide. Un néolibéral aujourd'hui, même si personne ne s'en revendique...
En France, est-ce que c'est le cas ailleurs ?
Non, très peu, parce qu'en fait, c'est devenu encore plus insultant que libéral. Mais simplement pour finir là-dessus, un néolibéral de bonne aloi aujourd'hui ne vous dirait pas on va tout déréguler systématiquement. C'est pas du tout ça la question. En tout cas, c'est pas du tout mon propos. C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Non, mais aujourd'hui, mais personne, même en Grande-Bretagne, ne pourrait dire ce que disait Margaret Thatcher dans les années 80, à savoir que l'Union européenne, ça doit être tout le grand marché et rien que le grand marché.
Ah mais ça, c'est votre deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu, qui est la question de l'Union européenne, qui en effet est un grand marché. Moi, je défends cette idée de l'Union européenne parce que je suis pour un grand marché et je pense que la liberté des échanges a créé la prospérité que nous avons aujourd'hui. En 200 ans, la richesse du monde a été multipliée par 100. C'est extraordinaire. Et on a toutes les preuves empiriques, hein, elles existent, et on sait que ça vient du libéralisme économique, ça ne vient pas d'autre chose. On sait que l'espérance de vie a fondamentalement explosé, le niveau de vie a augmenté, l'extrême pauvreté a diminué, l'alphabétisation, l'accès à la nourriture. Aujourd'hui, on meurt plus à cause des famines. C'est quand même aussi grâce à la liberté des échanges. Donc, tous ces bienfaits-là, à mon avis, enfin, c'est pas qu'à mon avis, mais on le sait, viennent d'un marché. Donc, je suis pour un marché européen, oui, dérégulé.
Alors, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. La question de la France. D'abord, moi, je partage pas l'idée que la France n'a jamais été libérale. Il y a eu, paradoxalement, un moment libéral en 2017. Où, ah oui. Pour la première fois, à la fois Emmanuel Macron et les trois candidats principaux à la primaire de la droite étaient des candidats libéraux sur les questions économiques. Je parlerai du reste après. Jamais la droite n'avait
été... Est-ce qu'ils auraient été qualifiés de libéraux en Grande-Bretagne de l'autre côté de la Manche? Non.
Alors, disons que...
De l'autre côté de l'Atlantique, non plus.
Disons que, à l'échelle...
Même François Fillon, qui serait le plus libéral économiquement de ceux que vous présentez.
Disons que, à l'échelle française, la droite française n'avait jamais été aussi libérale que durant la primaire de 2017. Or, il semble que ce moment libéral est en train de se refermer. Mmh. C'est vrai un peu pour La République En Marche et Emmanuel Macron, dont la tonalité de la campagne européenne est très différente, insistant davantage sur la protection et la souveraineté. Et c'est vrai.
Nathalie Loiseau refuse qu'on dise que son programme est libéral. Elle le refuse.
Elle refuse de dire que son programme est libéral et elle refuse de dire qu'elle va s'allier avec les libéraux au Parlement européen. Mais c'est vrai, et c'est plus significatif encore, de la campagne de François-Xavier Bellamy, dont le tournant n'est pas seulement d'être plus conservateur, c'est d'être surtout moins libéral sur les questions économiques que ne l'était la droite au moment de 2017. Donc ça, c'est mon premier point, c'est il y a eu un moment libéral, il est en train de se refermer, au moins provisoirement. Deuxième point, est-ce qu'il y a un lien indissociable et jusqu'à quel point entre le libéralisme politique, le libéralisme culturel et le libéralisme économique. C'est ce que vous semblez entendre, que c'est indissociablement lié, je pense que c'est pour partie lié, il faut savoir jusqu'à quel point, moi je défends le libéralisme politique, je défends le libéralisme culturel, le libéralisme économique, l'économie de marché, sans aucun doute, mais une économie marché régulée et avec des mécanismes de solidarité. Et donc là, on peut rentrer dans le débat.
Enfin, alors revenons à l'Union
dernier
européenne.
Point, justement, sur l'Union européenne. Grand marché, oui, un grand marché, mais pas seulement un grand marché. Je pense qu'une des difficultés de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de ne pas être assez libéral sur le plan politique, c'est-à-dire de ne pas défendre avec suffisamment de vigueur l'état de droit, y compris en son sein avec des pays qui ne la respectent pas et d'être parfois trop libéral sur le plan économique.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Alors, je vous suis là-dessus sur la question du libéralisme politique. Tout à fait. Après, je pense que il y a une difficulté en fait dans la question de la conciliation entre l'ordre de l'économie et l'ordre de la politique, parce que je ne pense pas qu'il faille confondre les deux. Quand je défends un grand marché, par exemple, je suis pas du tout en train de dire que l'État n'a pas son importance. Au contraire, je pense que le problème des libéraux un peu intégristes, parce qu'il y en a quand même, c'est de penser qu'en fait on n'a plus besoin d'État, on n'a plus besoin de nation, parce que ça, bon, c'est une réalité historique qui va disparaître. Je pense qu'en fait il faut arriver à concilier les deux, c'est-à-dire que...
Mais c'est ça le paradoxe que j'essayais de formuler peut-être de manière un peu maladroite, c'est que Londres et la Commission européenne se seraient alliés pour fabriquer du libéralisme à flux tendu. Vous connaissez le reproche, justement.
Oui, mais alors bon, ça c'est un petit peu exagéré, je pense. C'était dans les intérêts de Londres de défendre cette vision. Pourquoi la Grande-Bretagne quitte-t-elle l'Union européenne? C'est très intéressant. Vous avez une partie de l'opinion brexiteur qui vous dit « je quitte la Grande-Bretagne parce qu'il y a trop d'immigration ». Mais il y a une autre partie qui la quitte parce qu'elle
interne.
Et tout à fait, parce qu'elle estime que l'Europe n'est pas assez libérale, elle estime que l'Europe est trop protectionniste. Et ça, on le dit pas en France, mais ils veulent partir parce qu'ils sont très libéraux et qu'ils estiment que l'Europe ne l'est pas assez. Donc ça montre bien que c'est très compliqué. On trouve toujours plus libéral que soi.
Mais bien entendu. Et en effet, vous avez raison de souligner ces deux facettes des Brexiters. En revanche, quand vous dites il faut que l'Europe soit un grand marché, de quel grand marché on parle ? Je veux dire, la création de l'Union européenne, elle se fait autour de l'idée du marché commun. C'est-à-dire de l'idée qu'on va créer une zone économique solidaire dans laquelle des pays vont échanger parce que les excédents des uns seront vendus aux autres et que tout le monde y gagnera. C'est ça le principe, autour d'une notion, la préférence communautaire. C'est l'entrée de la Grande-Bretagne qui bouleverse cette vision-là et qui modifie petit à petit le sens de ce grand marché, plus encore avec la mise en place des politiques dérégulatrices de Reagan et Thatcher qui bouleversent l'ensemble de l'économie mondiale, puisque la division mondiale du travail explose totalement cette idée du marché commun, et l'acte unique européen de 1986 qui transforme le marché commun en marché unique, c'est la concrétisation de cette transformation. C'est-à-dire que c'est plus un marché solidaire, protégé à l'extérieur, mais totalement ouvert à l'intérieur. C'est un marché ouvert à tous les vents, dans lequel la compétition mondiale fait baisser mécaniquement les droits des citoyens qui sont à l'intérieur de ce marché.
Non, alors, j'acquiesce pas au fait que ça fasse baisser les droits, je ne vois pas d'ailleurs de quel droit vous parlez.
Ça s'appelle le droit du travail, la protection sociale.
Le problème du libéralisme économique, c'est que ces gains sont diffus, mais ces désavantages sont concentrés et on les voit. Si on fait la somme, et ça c'est objectif, la somme est positive. Il y a plus d'avantages que de désavantages.
Pour qui est-elle positive ?
Pour la richesse du monde.
Mais de la richesse du monde, ça parle
pas. Et la baisse de la pauvreté,
gens,
vous vous rendez compte que l'extrême pauvreté a considérablement diminué. Donc je suis plutôt contente qu'il y ait des petits-enfants en Afrique qui vivent beaucoup mieux grâce à ça,
alors,
qu'ils n'auraient pu vivre
aussi,
sans cela.
Mais je vais vous citer juste une chose. Connaissez-vous tout simplement, elle est fameuse maintenant, la courbe de l'éléphant de l'économiste Branko Milanovic, qui montre que, certes, nous nous réjouissons que des enfants sortent de l'extrême pauvreté en Afrique. D'ailleurs, c'est pas vraiment le cas, c'est surtout en Inde, en Chine, etc. Mais ça ne se fait pas pas sur le dos des plus riches, ça se fait sur le dos des classes moyennes et des classes populaires des pays occidentaux, qui sont ceux qui n'ont pas bénéficié de la mondialisation.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons tous bénéficié de la mondialisation. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Quand vous vous levez le matin, vous allumez votre téléphone portable, vous mangez à votre faim, vous prenez les transports. Tous les bienfaits du libéralisme économique ne sont pas affichés là autour de nous. Pourtant, ils sont partout. Les méfaits, ils sont concentrés. Et je ne les nie pas. Ils sont parfois déchirants. Mais ils sont concentrés. Et donc, on a l'impression, parce qu'on se concentre plus sur le négatif que sur le positif, qu'il constitue l'essence du libéralisme. C'est une grave erreur et je pense que c'est très grave parce que on va jeter le bébé avec l'eau du bain. On est en train de dire, il y a des méfaits, on n'en veut pas, on va se défaire de tout le reste.
Mais est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée, ce paradoxe, l'ultime paradoxe du Brexit, qu'au fond le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne alors que c'est son plus grand succès ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est plus son plus grand succès, parce que quand vous écoutez une partie de la classe politique britannique, beaucoup vous disent que l'Union Européenne, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas assez libérale, oui. Donc ils ne sont pas tout à fait satisfaits. Et je ne vois pas vraiment de paradoxe, moi je vois une nation souveraine qui décide d'exercer son droit, qui a décidé de quitter un espace de coopération économique et politique, et qui a tout à fait le droit de le faire. Moi je ne fais pas partie des gens qui...
Mais qui a du mal malgré tout à partir.
Oui, c'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait un départ sans accord. Parce que ce serait bien pour tout le monde, ce serait fini.
No deal, au moins c'est clair et net. Un divorce, non pas à l'amiable, mais une rupture franche au scalpel. Au moins c'est clair.
Oui, parce que moi je crois dans la capacité de ce pays à réussir.
D'un mot, puisque vous êtes aussi conservatrice et libérale, c'est assez frappant de voir le débat en France, et on va terminer l'émission là-dessus, puisque l'opposition qui domine le débat, elle est entre progressistes et nationaux, certains disent libéraux et nationaux. Les conservateurs, ils sont un peu hors-jeu. Troisième position, pour le dire vite, en tout cas, c'est celle qu'occupent les Républicains et la liste de François-Xavier Bellamy dans les sondages d'intention de vote.
Oui, c'est alors curieux. Ça dépend comment vous définissez le conservatisme. On va repartir sur une question de définition, mais pour moi, le vrai conservatisme doit être libéral. Donc, conservateur, c'est en tout cas, je pense pas que ça fonctionne très bien. En tout cas, moi, ce qui me gêne dans la bipolarisation, cette idée de dire on a les progressistes et les nationaux ou je ne sais quoi, c'est quand même aussi émettre un jugement de valeur. C'est une stratégie en fait qui a été développée par La République en Marche pour disqualifier en fait tous les gens qui défendaient. Une Europe où les États ont un rôle plus important qu'une Europe fédérale. Voilà, donc je me méfie de cette dichotomie.
Je suis contre toute forme de vision binaire, parce que je pense que c'est extrêmement pauvre. En revanche, il faut s'interroger sur la contradiction qu'il y a entre le conservatisme et libéralisme, dans la mesure où le libéralisme est avant tout un mouvement révolutionnaire qui bouleverse les structures. Et la question est de savoir si les conservateurs ne sont pas en train de déplorer la perte, la destruction de certaines valeurs, alors que c'est le libéralisme lui-même, dans son extension extrême, qui provoque cela.
On va devoir s'arrêter là, mais vous reviendrez, Laetitia Srouche-Bonnard, parce que c'est vraiment passionnant pour le coup. Et vous êtes peut-être la preuve qu'il n'y a pas de contradiction entre conservatisme et libéralisme.
J'allais vous dire que vous c'est êtes la preuve tout à vivante. Fait ça. Il y a une tension, mais je pense qu'on peut la résoudre.
Merci infiniment. Et donc, à bientôt pour un autre débat. Bon séjour en France, Natacha et Gilles. Je vous dis à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, Stéphanie Ronquin, à la technique, Antoine Théboul. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour questions politiques. À suivre, les secrets d'info de Jacques Monin.